Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire raconte les débuts dans la médecine d'un jeune homme prénommé Benjamin qui commence en tant qu'interne dans un service dirigé par son père. Au cours de l'une de ses premières nuits de garde, il soigne un patient SDF qui se plaint de douleurs au ventre. Il réalise les examens nécessaires, mais il se trouve qu'un des appareils ne fonctionne pas. Il ne peut donc pas lui faire d'électrocardiogramme. Le lendemain matin, il apprend presque incidemment que ce patient est décédé. Il lui apparaît tout de suite que cet examen aurait pu le sauver, mais il ne le saura jamais non plus avec certitude. Dès lors, Benjamin est embourbé dans une série de mensonges, de fuites et de compromissions qui le mettent dans une situation dont il finit par apprendre qu'elle est tout à fait habituelle. Mais pas plus que les jeunes médecins ne sont formés à réagir au deuil d'une famille, à la mort d'un patient, Benjamin ne se trouve préparé à faire face aux erreurs qu'il est susceptible de commettre, ou pire, à ses fautes, à négocier avec l'éthique ou avec la déontologie. Le serment d'Hippocrate de Thomas Lilti est un film générationnel qui fait date dans la prise de conscience par toute une partie de la société de ces questions nouvelles en marge de l'exercice strict de la médecine. Le film d'apprentissage de la médecine devient ensuite un genre florissant dont le dernier apparu, L'Ordre des médecins de David Roux, n'est pas le moindre. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, ce sont justement deux médecins qui appartiennent à cette nouvelle génération de praticiens de moins de 35 ans qui questionnent leur pratique et la documentent abondamment, qui dans un blog, sur une chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, des médecins digital native, militants, des jeunes différents et pas pareils, qui racontent leurs débuts, leurs dilemmes au micro de Leïla Djikli. Il y a d'abord Sabrina Ali Ben Ali, médecin en colère devenue urgentiste, et Baptiste Beaulieu, médecin, blogueur, écrivain qui officie depuis Auch. Souvenez-vous, aux pieds sur terre, nous sommes plusieurs à penser que Auch, c'est le centre du monde. Tout de suite donc, un reportage de Leïla Djikli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Sabrina Aurore Ali Ben Ali. Et je suis médecin aux urgences médicales de Paris. C'était en 93, hein, j'avais 8 ans, et j'ai eu la bonne idée d'aller m'entraîner sur le rebord d'une piscine en acier. Et donc j'ai pris le rebord dans le rein gauche, qui m'a donc fracturé le rein, l'artère rénale, la veine rénale, l'artère. J'ai très vite fait une hémorragie interne et une septicémie. On m'a sauvé et la vie et mon rein. Donc, ce qui est aussi très aidant après, quand on a été patient dans sa vie, de devenir médecin. Donc effectivement, ça part de là, en tout cas, c'est après là que moi j'ai commencé à dire que je voulais être un docteur et que je voulais soigner les gens. Voilà, et après je crois que ça a été qu'un enquistement, en fait, de cette idée. Je passe le concours à Limoges en 2004. Du coup, évidemment, il y avait de la détermination, ça il vaut mieux d'ailleurs, pour pouvoir tenir un rythme de travail pareil pendant un an. Et du coup, après, ça a été effectivement l'horloge jusqu'au résultat, quoi. Premier stage, cardiopédiatrie à un hôpital de cardiologie de la banlieue de Paris. Donc là, effectivement, on arrive avec des trucs canons, quoi. Des portes blanches qui s'ouvrent automatiquement. Et ça sent l'hôpital Et puis là, il y a le relais H et les cafés, les médecins qui n'ont pas dormi qui sont là. Le paradis, quoi. C'est comme quand l'histoire d'amour débute avec les papillons dans le ventre, vous êtes pressé de le revoir, nanana. Et au premier texto, vous souriez, vous dites comment répondre. Là, c'est pareil. En fait, vous tombez amoureuse de l'ascenseur, du badge où il y a votre nom, où il y a écrit externe en médecine, de la blouse que vous avez le droit de porter, et puis d'essayer de mettre un stylo, deux stylos, non, c'est mieux avec un. Un carnet, pas de carnet, non. Le stéto, poche de gauche, poche de droite. Et du coup, ça a été l'émerveillement, en plus, qui a été très vite à son apothéose, parce que je crois que je me suis retrouvée au bloc la deuxième semaine. Non mais enfin, il faut se représenter quand même, c'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes en bleu, dans un silence quasi absolu, à part des bruits des machines et des instruments, et il y a la poitrine qui s'ouvre, enfin il l'ouvre. Moi je regardais, et là déjà il y a eu ce moment où j'ai vu les poumons, genre deux trucs là qui ont fait... Genre, vous voyez, enfin, genre, il y a le métro le matin à quelqu'un, ben là, il y a les poumons, en fait. Vous voyez les poumons qui se gonflent comme ça et qui redescendent. Je veux dire, c'est... Et donc, on arrête le cœur. C'est l'équivalent de tuyaux qui vont assurer la circulation, donc, par définition extracorporelle. Parce qu'on ne peut pas vivre si ça ne bat pas. Vous. Enfin, même quand on est en médecine et qu'on sait que c'est possible... Comprendre dans son cerveau qu'on arrive à faire continuer la vie quand il ne bat plus, c'est le miracle, c'est le... Enfin, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir de plus beau que ça, à ce moment-là. Les jours passent, ouais, jusqu'à l'entrée de Lily... Moi, la première fois que je rencontre Lily, c'est d'abord sur un dossier bleu qui est lu à 8h30 au staff. Donc, ils discutent qu'on reçoit une petite fille qui a une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, c'est une anomalie génétique du cœur qui fait qu'il est trop gros. Et donc, la petite est hospitalisée pour ce qu'on appelle une décompensation cardiaque. C'est-à-dire que là, elle a aggravé sa pathologie de base. On va en faire la visite, elle était dans le lit. À la fois, elle est tellement mignonne et les parents ont l'air tellement gentils et tout, que vous avez un élan presque comme si vous étiez à une fête d'anniversaire, vous voyez, invité. Et en même temps, vous avez en mémoire ce qu'on a dit avant au staff, où on est quand même dans un truc hyper grave. Et que cette gamine, a priori, il va falloir la greffer, qu'elle ait une greffe cardiaque. Donc, il y a cette espèce d'élan à vouloir... y aller et plaisanter, et en même temps vous êtes pris par la gravité du moment, quoi. Mais là où j'ai eu vraiment où mon cœur a décidé qu'il allait aimer cette gamine et être avec elle jusqu'au bout, c'est le matin où ma chef a été lui dire qu'il fallait qu'elle bénéficie d'une intervention en urgence avec un cœur artificiel. Elle s'aggravait depuis plusieurs jours. Elle était bouffie d'œdème. Et ça, je me rappellerai toute ma vie. On rentre dans la pièce, dans sa chambre. Ma chef va la voir. Elle passe sur la gauche de son lit, où il y avait sa maman sur le fauteuil. Elle s'assoit sur le lit à hauteur de la petite. Et elle lui explique que son cœur est très, très fatigué. Que là, son corps est trop en difficulté et qu'il a besoin d'un cœur qui marche, mais que là, ça devient difficile pour son corps de marcher avec celui-là. Et que donc, celui-là, il ne peut pas continuer. Et qu'en attendant d'en avoir un autre, on va en mettre un faux, un artificiel. Et donc, elle lui explique l'intervention. Elle lui dit, voilà, on va arrêter ton cœur. On va mettre celui-là... à la place. Et là, la gamine qui lui dit « Mais si le cœur il s'arrête et que ça repart pas ?» Et là, bon, fait chier, quoi. Intérieurement, vous avez juste envie de tout casser, quoi. Et puis avec, malheureusement, ce qu'on appelle le transfert positif, c'est-à-dire que je m'attache à une gamine qui a le même âge que moi au moment où moi j'étais hospitalisée. Donc, qui est une brunette, elle avait ramené ses devoirs, elle était sage, polie. Elle a été opérée, elle a eu une berline Hart. La poitrine n'avait pas pu être complètement refermée, donc il y avait des agrafes qui sortaient de son petit corps. Et on va essayer de ne pas pleurer. Et puis, c'était les jours passés comme ça, dans l'attente de la nouvelle d'avoir une greffe. Donc il y avait les dessins partout autour d'elle. Il y avait ses copains d'école qui disaient « Reviens vite » et tout. Et puis il y avait l'équipe qui lui faisait des nattes et tout pour qu'il reste... Il reste toujours au moins la coquetterie, le truc. Je sais plus pour quelle raison je passais un week-end à Limoges. Je me rappelle plus si c'est le vendredi soir ou le samedi soir, mais j'ai un appel de ma chef, un texto, un SMS, et elle me dit qu'on a un cœur et qu'elle est opérée ce week-end. Et donc moi, je remonte le dimanche soir, toute excitée, toute contente. Le lundi matin, donc moi, je fais ma visite, nanana, à 11h... Je dis à la nouvelle interne, on était en train de parler au-dessus en train de faire l'électrocardiogramme d'un petit bébé qui était dans sa petite couveuse là. Et du coup, je posais les patchs. Et donc, je dis, ah oui, je sais pas si ils t'ont dit, ce qui était hors de question que la nouvelle équipe d'interne m'enlève mon petit passe droit d'aller en réa tous les jours et de switcher une demi-heure de la matinée, voir Lily. Donc, si tu peux juste m'autoriser à descendre après le CG là. Et là, j'ai juste vu qu'elle se relève, je vois juste ses yeux, elle me dit « Ah, t'es pas au courant. » Alors là, le « t'es pas au courant », bon d'abord j'ai compris ce que ça voulait dire. En fait, c'est pas la phrase, parce que t'es pas au courant, vous pouvez vous dire qu'elle a fait une complication. C'est que la façon dont elle m'a regardé, des yeux où il y avait écrit en fait « elle est morte », quoi. Le monde s'écroule pas un peu en fait, le monde il s'écroule complètement à ce moment-là. C'est-à-dire, tout ce qui faisait sens ne fait plus sens. Il y a cette espèce de confusion complète de vouloir la voir, de vouloir aller à l'enterrement. Là, heureusement que je suis vite recalée par mes chefs, qui comprennent ce qu'il est en train de se passer pour moi. Et puis qui après ont compris que... Parce que le lendemain matin, en fait, pour revenir en stage, j'ai pas réussi à rentrer à l'hôpital. Je suis restée en bas. Du coup, le mal au ventre, donc je fume une cigarette, je me dis, bon, t'as un coup de stress, qu'est-ce qui s'est passé hier? Puis j'attends 10 minutes, j'en fume une autre, j'attends, puis en fait, au bout de 2 heures, je pouvais pas, en fait, j'étais tétanisée. J'essayais au départ de me dire, ça va être une histoire de jours, puis de semaines, et puis le problème, c'est que ça continue, c'est-à-dire que tout ce que j'adorais, là, m'angoisse, quoi. Et comme ça s'améliore pas, ni dans les jours, ni dans les semaines, je commence à avoir vraiment peur de pas pouvoir continuer. Malheureusement, en plus, Lily réveille un passé sur lequel j'avais mis un déni complet pendant probablement jusque-là, sans jamais avoir véritablement fait le deuil de mon père, sans jamais avoir... pu travailler parce que sur les traumatismes passés, cette hospitalisation quand j'étais petite qui m'a profondément marquée, et je revoyais en fait ça me mettait hors de moi, quoi, ce qui se passe. Et puis il y a je pense qu'il y a une guérison qui se fait lentement, très lentement. Et puis, je me suis dit, comme je suis très rationnelle, je me suis dit, on va faire comme une prothèse de hanche, on va après en rééducation. Donc, prendre des stages simples, quoi. Rien où ça peut être vital, en fait. Et donc, je fais comme ça ma petite rééducation bon an, mal an. Et puis, comme il y a quand même des très jolies choses tout le temps aussi, et ben c'est une bonne nouvelle, une deuxième, une sortie d'un malade. Les sourires qui, même quand c'est pas vital, du coup j'étais en médecine interne à Béclair, et du coup ça c'est comme les roues, vous savez, quand ça a été à l'envers et puis d'un coup contre la pression faut les faire redémarrer lentement dans le sens, et ben là c'est pareil. Autant il y a une chose qui peut vous faire basculer, mais il n'y a pas une chose, quelque chose qui va vous remettre de pied à l'étrier. C'est à nouveau ce tout, c'est-à-dire c'est à nouveau tout ce qui vous a fait tomber amoureux de l'hôpital, qui va à nouveau réapparaître. Toutes ces petites étoiles qui rééluminent ce que va être la profession, ce qu'est l'hôpital, qui rééluminent votre rôle dans tout ça, et que effectivement il y a un sens. Et même dans le départ de Lily, J'ai su plus tard, un an ou deux, qu'ils étaient revenus pour sa petite sœur et qu'on a pu tout dépister et que tout va bien. Et puis qu'on va continuer à donner à tous les autres ce qu'on a appris du meilleur de Lily, c'est-à-dire faire du traumatisme, du courage et d'aller mieux, même s'il y a une plaie qui sera toujours ouverte. Vous avez fait des défenses immunitaires avec ça et à montrer au service de toutes les autres bactéries.
France Culture, les pieds sur terre.
J'exerce dans la région toulousaine où j'ai un petit cabinet avec deux associés qui sont formidables et où j'ai la chance de faire de la médecine générale. Je soigne la moitié de la semaine, le reste du temps j'écris. Je passe ma vie à écrire. Suite au concours de l'internat, ce qu'on appelle l'examen national classant, que j'avais lamentablement raté, puisque ça arrivait juste après un gros chagrin d'amour. Je crois que j'étais 300 sur 5000 au concours blanc. J'ai fini 4500 sur 5000 parce que la jeune fille que j'aimais à l'époque m'avait quitté quelques semaines avant le concours. Et donc, j'avais pris un peu par dépit la médecine générale et j'ai commencé au service du docteur Pinault en gastro-entérologie à l'hôpital de Hoche, qui était probablement le meilleur médecin que je pouvais trouver à ce moment-là de ma vie, qui a été d'une douceur avec moi, qui a dû sentir qu'il y avait une petite blessure et qui m'a montré l'hôpital avec son regard, qui était un regard humaniste, magnifique regard. Et c'était professeur comme j'espère on en fera encore dans 1000 ans, quoi. J'ai commencé à vouloir raconter les histoires, à vouloir chroniquer ce réel-là, tout simplement avec mon premier mort, qu'on n'oublie jamais. Parce qu'on part avec le SAMU et on entend à la radio qu'il s'agit d'un homme de 95 ans qui était assis sur un banc au soleil, dans le petit square juste en bas de chez lui, et qui a fait un petit infarctus. Il s'est couché sur le côté, il ne répond plus aux sollicitations de sa famille. Et je me suis dit, 95 ans, sur un banc, au soleil, bon, ça va bien se passer, ça va pas être dramatique. Il a une longue vie, une belle vie, c'est pas une enfant, quoi. J'avais de la hantise de commencer par quelque chose de trop difficile, qui me blesse trop au début. Et évidemment, j'avais oublié la famille. Parce qu'on peut avoir 95 ans, avoir une belle vie, mais on a surtout des gens qui nous aiment. Et donc, on est arrivé. Et c'est là que j'ai compris que ça allait être plus difficile pour moi de m'en sortir, parce que du coup, on commence à masser, à intuber, et moi j'étais à la tête du patient, et j'entendais sa petite fille qui lui parlait à l'oreille, et qui lui disait des mots, « Ne t'en va pas, je t'aime, tu peux pas me laisser dans ce monde-là. » Je me souviens de cette phrase qui m'avait vraiment bouleversé, parce que le monde est dur, et quand elle disait cette phrase-là, elle disait beaucoup de choses sur elle, et ne me laisse pas dans ce monde-là. Et je me souviens de cette phrase-là, et je me suis dit, il faut aussi que je raconte ça. Un autre exemple, c'est une intervention avec le SAMU qu'on avait fait dans un lycée professionnel. Vous savez, c'est des lycées où les lycéens dorment. Pendant la semaine, ils rentrent dans leur famille le week-end. Et c'était une jeune fille qui avait fait une tentative de suicide. Elle avait 16 ans et on est arrivé dans la nuit et on était deux équipes de SAMU. La première équipe était partie sur un accouchement difficile à l'autre bout de la ville et nous on était partis donc sur cette intervention-là, sur cette tentative de suicide. 16 ans, brune, chagrin d'amour, elle a pris des médicaments et donc on arrive et il y a les pompiers locaux qui sont déjà là et qui sont en train de faire un massage cardiaque. Et il y a tous ces lycéens et ces lycéennes qui sont en pyjama et qui pleure, et qui se serre dans les bras, et puis nous on arrive, la chef commence à intuber la jeune fille, moi je remplace le pompier pour faire le massage cardiaque, parce que c'est épuisant un massage cardiaque, hein, c'est très physique, et on s'est battu comme des fous, évidemment, hein, pendant 20 minutes, 25 minutes, puis c'était trop tard malheureusement, donc on a dû abandonner, et on a pris le corps de cette jeune fille qu'on a ramené dans sa chambre, et il y avait des photos d'elle partout sur le mur, alors à la plage avec ses parents, en vacances, avec ses amis. Et je me souviens, on a posé son corps sur le lit, il y avait une des photos d'elle avec sa mère qui lui tressait une natte, qui est tombée sur le lit à ce moment-là. Et puis moi, j'arrêtais pas de penser à ces gendarmes qui allaient aller sonner chez des parents et qui allaient leur annoncer l'indicible, quoi, ce qu'on peut pas dire à des parents. Et on est rentré à la base dans l'ambulance, et donc il y avait un silence quasiment métaphysique dans la voiture. Hein. Personne ne parlait. On avait perdu cette patiente il y a 16 ans pour un chagrin d'amour, on en a tous connu. Et avec le recul, on sait tous combien c'est bête de vouloir en finir à cause de ce premier chagrin dont on guérit tous un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, il y a eu des parasitages sur la radio de l'ambulance dans laquelle on était. Et on a entendu l'autre ambulance qui était partie sur l'accouchement difficile. Et on a entendu à 4h du matin, alors qu'on venait de perdre une fille de 16 ans, le premier cri du bébé qui était venu au monde à l'autre bout de la ville. Et c'était un cri puissant, c'était un cri fort. C'était la vie qui disait « je suis là et je continue ». Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire « qu'est-ce qui se passe ?» On vient de perdre cette jeune fille de 16 ans, et puis là, il y a des parasitages, et j'entends le cri de ce bébé qui était destiné à peut-être ne pas venir au monde parce que l'accouchement se présentait très mal, et finalement, il vient au monde. Et en plus, on entend même la voix du secouriste qui dit « Abgar 10 sur 10 ». C'est un terme médical pour dire qu'il va parfaitement bien. Il a une note de 10 sur 10, comme un patineur, voilà, 10 sur 10, quoi. Superbe salto, il est arrivé dans ce monde parfaitement bien. Et c'est là que je me suis dit « mais... » il y a une histoire là, il y a des histoires, il ne faut pas les gâcher, parce que si moi je vois ça et que je ne le partage pas, alors c'est gâché, c'est perdu pour toujours. J'avais envie d'être le passeur. Et par exemple, il y a cette histoire là qui est magnifique, que j'ai reçue peu de temps après Noël, d'une soignante qui me disait qu'elle avait reçu un jour aux urgences, le soir de Noël, un papy qui s'était occupé de sa petite fille, et la petite fille, au cours de la soirée, avait eu un moment d'absence. C'est quand la personne vous regarde, puis d'un seul coup, on sent qu'elle ne parle plus, elle s'arrête de parler, puis les yeux sont ailleurs, et puis elle va reprendre le fil de sa discussion comme si rien ne s'était passé. Parce qu'elle ne s'est pas aperçue de l'absence, mais les personnes autour s'en sont aperçues, et c'est très inquiétant. Et la petite fille s'est mise à pleurer juste après cette absence, et le grand-père a voulu la consoler le soir de Noël. Il l'a prise dans ses bras, et il lui a fait un câlin, il l'a bercée contre lui, et il a collé sa tête contre sa tête. Et en collant son oreille contre son crâne, il a entendu, il dit avoir entendu comme du vent dans la tête de sa petite fille. Ça l'a inquiété, donc il a filé aux urgences, et donc le motif d'hospitalisation, c'était « j'entends du vent dans le crâne de ma petite fille ». Eh ben, c'est beau, c'est poétique, mais c'est surtout, dans ce cas-là, salvateur, puisqu'il lui a sauvé la vie. Il s'avère que la petite fille avait une petite malformation artério-veineuse, qu'elle a été opérée très rapidement grâce au grand-père. Et ce qu'il entendait, le vent, c'était simplement le sang qui passait à travers cette malformation artério-veineuse. Et c'était le soir de Noël. Donc, il se passe toujours des histoires très particulières, les soirs de Noël aux urgences. Pendant 10 ans, on a la tête plongée dans les livres. C'est comme la fac de médecine, c'est une école coranique. Hein. On est là sur nos livres et on répète les mêmes choses, une longue litanie des pathologies qui peuvent nous tomber dessus au cours d'une existence humaine. Et dans ces livres, on nous dit, voilà, le patient vient, il présente tels symptômes, vous faites tels examens complémentaires, vous obtenez un diagnostic, vous lui donnez tel traitement et tout va bien. Les livres d'anatomie, tout est magnifique dans les livres d'anatomie. C'est-à-dire, les veines sont bleues, il y a même des post-it avec le nom des veines. Les artères sont rouges, il y a même un post-it avec le nom des artères. Les muscles sont bien dessinés. Et puis le jour où on ouvre pour la première fois un corps humain, on s'aperçoit que c'est la merde. Tout est mélangé, rien n'a de couleur, il n'y a pas de post-it. Et qu'on doit se débrouiller. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire, le jour où on met un pied à l'hôpital, eh ben, les patients arrivent, ils ont des symptômes bizarres qu'il n'y a pas écrit dans les livres, parce qu'en plus, ils parlent avec leur propre langage. On fait des examens complémentaires qui sont parfois un petit peu flous au niveau des résultats. On pose un diagnostic, et puis parfois, les traitements ne marchent pas. Et le patient revient en disant, je suis toujours malade, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on a grandi pendant ces 10 ans avec les livres qui nous disent, mais une fois que le traitement, voilà, tout va bien. Voilà. Et là, c'est un petit coup sur la tête, et l'humilité en prend un sacré coup, parce qu'on se dit, je vais devenir médecin. Puis après, on s'aperçoit qu'on ne devient pas médecin, on devient écoutant. L'essentiel de notre boulot, c'est d'écouter, proposer des traitements et qui parfois échouent, mais le plus important, c'est de savoir qu'on est là aussi d'abord pour écouter les gens. C'est dur de dire ça, que c'est une chance, mais ça on s'en rend compte plus tard parce que la maladie nous change, elle nous apprend énormément sur nous-mêmes, elle nous fait grandir. Et sur le coup, il n'y a que de la douleur, mais il faut des années pour comprendre que la douleur s'est muée en expérience et qu'on a grandi grâce à ça. Et moi, j'ai eu de la chance vers l'âge de 8-9 ans de tomber malade et de voir parfois des médecins qui me disaient « mais c'est pas grave, c'est rien », parce que j'avais un lupus, une maladie auto-immune qui fait qu'on a des rougeurs qui s'installent sur le visage, qui s'installent durablement. Et j'entendais les médecins qui disaient « mais c'est rien, avec le traitement ça va partir ». Puis le traitement ne faisait rien partir. Et puis à 11 ans, vous savez, on commence à être dans un processus de séduction. On achète du gel, on se fait beau devant le miroir pendant des heures. Et puis il y a ces médecins qui disaient « mais c'est rien », alors que mon visage, je voulais qu'il plaise, je voulais qu'il plaise aux filles. Et d'avoir ces médecins qui n'entendaient pas que pour moi, c'était la fin du monde, ça m'a donné envie, je crois, de soigner plus tard, mais d'essayer de soigner en entendant vraiment ce que me disaient les gens. Je crois que dans une autre vie, je devais être, vous savez, un griot africain au pied d'un arbre qui racontait. Et j'ai grandi, notamment grâce à ma maman, avec un amour immodéré pour les mythologies. Et quelque part, je ne fais pas autre chose que de continuer à raconter ma petite mythologie, qui est celle de mes patients, de mes patientes, de mes soignants, de mes soignantes, que je transfigure à travers leur rôle, parce qu'ils dépassent ce qu'ils sont pour toucher à quelque chose de plus fort, d'archétypal pratiquement. Le clochard qui vient le soir de Noël et qui me raconte qu'il récupère les petites tranches de blister qu'il y a sous les escalopes de dinde et qu'il les utilise pour caler dans ses chaussures les petits ulcères qu'il a à force d'avoir des choses qui ne sont pas adaptées à ses pieds. Eh bien, ce n'est pas un clochard, c'est le clochard avec un C majuscule, le clochard céleste, lui qu'on retrouve dans les littératures. Parce que moi, j'ai grandi avec l'idée, parce que c'est très, très mythologiquement grec, cette idée-là, que si un jour un mendiant vient taper à votre porte, il faut toujours être gentil avec lui, il faut toujours l'écouter, il faut toujours l'accueillir, parce que souvent, c'est un dieu qui s'est caché pour descendre et pour tester notre générosité. Et peut-être que j'ai grandi avec cette névrose-là de me dire, un jour je vais tomber sur un dieu ou une déesse, il faut que je sois gentil avec tout le monde en attendant ce jour-là.
Soul can't do no harm, I dare. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah.
C'était des gouttes de docteur, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Yael Mandelbaum. L'attaché d'émission des Pieds sur Terre, c'est Aurélie Marseille avec Abdelrahim Chekroun qui est notre stagiaire. Merci à Baptiste Beaulieu et à Sabrina Benali.
I ain't got no